Vous écoutez
RMC.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches minuit, on est ensemble pendant une heure avec Mounkir évidemment. Salut,
oui,
Mounkir.
Salut mon Daniel, une heure qu'on va bien fructifier en revisitant cette passion qu'on a en commun, le poker.
Fructifier, c'est là qu'on voit le joueur de poker, il ne peut parler qu'en termes d'oseille.
En termes de temps,
tu veux le fructifier.
Ah oui, mais il a plu aujourd'hui, crois-moi que j'ai pris une bonne sauce.
Le programme du soir, il est pas mal. Cher Mounkir, on aura tout à l'heure au téléphone Steph Matteux. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu notre coach, manager.
Au Mexique.
Du Team Wina. Non, lui en ce moment il n'est pas au Mexique. Il est à Montréal. Et évidemment avec tout le team qui est un petit peu éparpillé, ils sont en train de préparer les WSOP en train, bientôt ils vont tous se rejoindre à Vegas.
On a reçu des bonnes nouvelles.
On est impatients effectivement. On avance semaine après semaine. On n'est plus très loin du début des WSOP. Mais toi d'ailleurs, tu n'es plus très loin non plus.
Ça sent
bon. La bonne nouvelle est tombée cette semaine.
Oui mon poupou, c'est tombé cette semaine. En attendant juste la confirmation de la date de novembre. Voilà. Donc logiquement il y a des rumeurs qui disent que ce serait pour le 2, d'autres on dit le 1. Donc moi,
on parle de l'ouverture des frontières pour tous les ressortissants étrangers vaccinés
deux fois.
Oui, totalement vacciné. Donc tu vas pouvoir aller à Vegas, tu vas pouvoir aller jouer, tu vas pouvoir nous ramener un bracelet.
Et aussi d'être.
Non, je déconne, mais je te le souhaite.
D'accord, c'est noté.
Donc Steph Matteux tout à l'heure avec nous au téléphone, l'actualité évidemment, on passera en revue quelques petits tournois, on jouera dans la tête d'un fiche et en studio avec nous. Ça nous fait bien plaisir, il y a longtemps qu'il n'était pas venu dans les RMC Poker Show, très longtemps même, j'ai du mal à me souvenir quand. Guillaume Darcourt.
Bonsoir.
Une légende. Salut Guillaume, du poker français.
Eh oui, le boa, il est chez nous, les amis, ça ouais. Celui qui nous a fait tant rêver, que, d'ailleurs aussi qui a son spectre est resté, comme on dit, tu vois.
Guillaume Darcourt, qu'on ne peut plus qualifier de joueur professionnel. Tu l'as été très longtemps, Guillaume, mais aujourd'hui, ça n'est plus au centre de tes activités principales, n'est-ce pas?
J'ai pris ma retraite officielle il y a 4 ans.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Ça passe vite. Il y a 2 ans de Covid, ça compte.
Non, on a raté le jubilé quand même.
Ça ne t'empêche pas. Il n'y a pas de jubilé parce que c'est ce que j'allais dire. Ça ne t'empêche pas de jouer.
Oui,
c'est la seule chose, c'est que ça n'est plus. Peut-être tu joues moins qu'avant. Tu vas nous en parler. Et ça n'est plus au centre de ton activité puisque tu es aujourd'hui salarié de la très belle entreprise présidée par notre ami Jean-François Rial, voyageur du monde.
Salut,
exactement.
Mais ça fait un moment maintenant que tu bosses avec eux.
Ça fait 5 ans.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu ne vis plus à Marrakech.
Et je ne vis plus à Marrakech.
Parce qu'évidemment, quand on allait à Marrakech, on tombait forcément sur Guillaume Darcourt.
Ah, bah, totalement.
C'était un peu j'allais dire le patron de la ville, mais il y a tellement de joueurs de poker qu'on a qualifié de patron de Marrakech.
Ah, non.
Est-ce que tu t'es estimé le patron de Marrakech au poker?
Jamais.
Jamais? Bon, en tout cas, on te croisait quand même beaucoup quand on jouait au poker là-bas.
Oui, ça,
oui, mais on parlait plus de moi pour des choses un peu sympathiques que forcément uniquement du poker, non?
Ouais.
Bon, pour les fêtes à la maison, les choses comme ça.
Quand tu visites la place de Malefna et l'Ourika, je pense qu'après c'est que le casse, quoi.
Mais généralement, Guillaume, tu fais partie de ces gens dans le milieu du poker dont on n'entend jamais parler en mal. C'est plutôt toujours Guillaume Darcourt, soit le gars sympa, en dehors de ce que tu étais à la table et ce que tu représentais. Et pour les jeunes joueurs qui démarraient, surtout, faut pas tomber à la table des Guillaume, il va t'en mettre plein la tronche. Il y avait une forme d'inquiétude aussi à te croiser.
C'est le mot que j'ai le plus entendu quand j'arrive à une table. Je l'ai entendu.
C'est pas un mot, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est un bruit qu'on entendait?
Je pense que c'est un ensemble de choses.
Des réactions un peu désabusées, quoi. C'est un petit peu ce que tu provoquais. En tout cas, ça me fait
plaisir. Mais je suis pas si vieux, ne dis pas que du bien. J'ai l'impression d'être mourant.
Non, tu m'as l'air en plus totalement.
En pleine forme.
Et donc, oui, je disais, donc, vous vous êtes vu puisque vous avez joué là. À Clichy.
Ouais, sur le bide.
Il y avait les tournois d'Apo. Tu as fait quoi comme tournoi, Guillaume?
J'ai fait l'Apo 500, l'Apo 1000 et 2005.
La question d'après, c'est. Et alors?
Une table finale, 7e place.
Donc un petit gain quand même.
Un petit gain.
Bien sympa, bien arrogant, comme on dit.
Petit, on qualifie ça de comment pour
un petit 8K.
Ouais.
Franchement, tu
sur le petit.
Ouais, tu peux ouvrir une ferme avec Lucas.
Satisfaisant.
Au Havre.
Et sinon, j'ai participé encore à la légende du chip leader D1 et boss D2 sur les trois tournois.
Alors, il faut que tu en parles. Alors, nous t'écoutons nous parler de. Alors,
mais je vais en parler avec Stéphane Matteux. Peut-être que lui peut.
Ah, tout à l'heure, peut-être. Il sera avec nous, tu leur poseras la question, mais il faut quand même qu'on déroule un petit peu. C'est dans lequel, principalement, où ça peut-être, ça t'a le plus fait mal d'avoir 2005. Été aussi bien et que ça se termine pas bien, finalement.
Clairement, sur le 2005, sur le dernier, parce que je suis vraiment arrivé sérieusement, solide. Et j'ai juste, j'ai pas déconné pour une fois. J'ai juste pas existé.
Il y a pas le.
Quoi, t'as plus de 200 blindes, non, c'est ça.
Il y a pas d'explosion en vol comme ça a pu t'arriver, non. Alors comment tu qualifies le.
J'ai un festival à l'envers. Je me suis fait bluffer. Je me suis fait arracher. J'ai pas connecté. J'ai eu un peu de tout, mais je n'ai jamais existé.
Jusqu'à quel moment du tournoi tu t'es encore très très bien?
En vrai, une demi-heure avant la fin, où j'ai encore, j'ai divisé mon tapis par trois, mais je suis encore bien, j'ai encore la moyenne. Donc, mm-hmm. En vrai, je suis encore bien.
Surtout que c'est un tournoi qui est ultra deep, quoi. Ouais. Donc c'est même avec 30 blindes, enfin
ça laisse des regrets.
C'est vrai, forcément, parce qu'il est magnifique.
Ouais.
Il est magnifique, en vrai.
Tu l'as joué
ce APO 2005, le 2005, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Visiblement, ça s'est moins bien passé pour toi.
Bah, disons que j'ai fait des très bons folds, mais qui m'ont coûté beaucoup de jetons. Donc voilà.
2005, c'était en dehors du main à Vegas, qui est un 10 000. Est-ce que c'est pas ce que tu as fait de plus gros en 2005?
C'est le plus gros. C'est effectivement.
Et alors, comment tu l'as abordé, je veux dire?
Je l'ai abordé de la même manière que j'ai abordé.
2005, c'est tournoi costaud. Au niveau du field, ça doit pas être quand même du touriste.
De toute façon, ce qu'il faut que tu
t'avais préparé un truc?
Non. D'abord, le
T'as film. Pas joué plus serré que d'hab parce que c'était en 2005?
Tu peux pas jouer plus serré que serré, quoi.
Après. Te concernant, oui, plus serré.
ça dépend. J'ai pas joué que serré. Après, je me suis adapté à la table. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a.
Non, mais ce que je veux dire, t'as pas eu d'appréhension. Tu n'es pas dit,
tiens, là. Mais non, mais sinon, tu viens pas. Tu t'assois pas.
Moi, je veux bien. Tant mieux pour toi si t'arrives à appréhender les choses comme
mais
ça.
Non, ça.
Moi, je sais que j'aurais. Peut-être que plus tu augmentes, je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais si t'es habitué à faire des 500 demi d'un coup de trop de 2005, il est un peu logique que t'aies une appréhension, que tu envisages que les mecs sont forts à la table.
Non.
Bah, c'est bien si t'arrives à.
Justement, il faut. Au contraire, moi, je suis content qu'il y ait tous les plus gros règles de Paris qui étaient là. Il y en a qui sont venus même du Sud. Bon, t'avais des très gros joueurs du Sud qui étaient là. Faut dire qu'il y avait un très, très gros field, que ce soit sur le 500, le 1000 et le 2005. Le 3000, enfin, le high-roller, c'est un peu réduit, parce que je crois qu'il a fini, je crois, à 80 joueurs, je crois. Mais c'est vrai qu'il y avait pratiquement les meilleurs. J'avais pas une table facile. J'avais quand même 1, 2, 3. J'avais 4 joueurs, dont notamment il y avait Gilbert Diaz qui était à ma droite. Pour la première fois, ouais. Gilbert Diaz à ma droite. Et deux super joueurs que je salue d'ailleurs, qui m'ont bien fait mal. Enfin, qui m'ont fait mal dans le sens où je pensais être max. Ils étaient plus max que moi, mais j'ai fait
folder. Est-ce que tu t'es senti en difficulté niveau de jeu ou préparation?
Non. Guillaume disait quelque chose. Il y avait quand les coups ne rentrent pas et que effectivement tu fais grossir les pots et que au bout d'un moment bah t'es obligé de folder parce que tu sais quand le mec te met à tapis il te met pas à tapis en bluffant et que tu montes face up et qu'il te monte face up quand tu fais quinte, bah lui fait full rivière et compagnie, donc forcément ça laisse des jetons. Ensuite la structure, même si elle est deep, moi j'ai lâché au blind 1000-2000. Donc si tu veux, c'est ça fait partie du jeu, mais en aucun cas je viens avec la peur au cul, quoi. Sinon je m'assois pas sur une table. Au contraire, il faut te friter. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ton souci, ça. C'est que quand tu déjà toi t'as un peu la phobie de savoir que les tournois vont durer longtemps, voilà, et que moi si plus il y a des gens qui vont être plus forts, mieux plus ça va m'exciter. C'est indéniable. Bah,
Guillaume, c'est pareil ou est-ce que au fil du temps, parce qu'il y a une époque, forcément t'as dû estimer que t'étais meilleur au poker qu'aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Oui. Alors, et au fil du temps, dans un tournoi comme ça, est-ce que tu es plus inquiet par le niveau des autres ou ton expérience te permet de considérer que t'es encore dans. On a beaucoup dit que les joueurs d'aujourd'hui étaient beaucoup plus préparés et que peut-être ça occasionnait chez toi une forme d'appréhension ou t'étais quand même assez tranquille?
Alors, je vais te dire un truc que j'aurais pas pu dire. Avant, quand j'étais pro, j'aurais pas pu donner une faiblesse aussi grande. J'ai toujours eu une appréhension pour les D2 et c'est pour ça que c'est la cassure du D1. Je suis prêt à continuer le D1 encore des heures et des heures, même après 15 heures de jeu. Mais cette cassure-là, le redraw, j'ai toujours eu une appréhension des premières minutes, du premier niveau, etc. Et si je démarre mal ce premier niveau, c'est pour ça qu'on a, j'ai souvent explosé en vol en, en D2. Ça part de la première heure. Parce que j'arrive pas
jamais,
à me mettre dedans.
T'as jamais cherché à comprendre.
Si, si, bien sûr. J'ai travaillé dessus. Parfois, j'ai réussi. Parfois, j'arrivais pas à aller contre moi-même.
Et quand tu travaillais dessus, tu parlais, qu'est-ce qui ressortait des discussions? Genre, le D1, t'étais à l'aise. C'était parfait. Tu pouvais monter des grosses sommes. Après, on met les jetons dans le sachet plastique. On va dîner, on va dormir. Il faut revenir le lendemain ou parfois le surlendemain. Mmh. Et là, cassure.
Parce que sur un D1, je suis très à l'aise avec un nombre de blindes très important au démarrage, hein, je parle. Mmh. Avec un nombre de blindes très important qui me permet d'aller
développer
jouer coup. Énormément de coups, qui est mon jeu d'une manière générale.
Ouais. Confirme.
Et maximiser mes bons jeux.
Donc faire monter les jetons.
Exactement. Ouais. C'est comme ça que je monte les jetons. Et en même temps, pour, entre guillemets, pas cher, j'ai le temps de jouer et d'observer ma table. Le D2, les coups sont immédiatement chers et tu n'as pas le temps d'observer ta table. Et moi, j'ai besoin d'observer ma table, j'ai besoin de trouver des tels sur mes adversaires, j'ai besoin de les mettre dans une catégorie de joueurs, etc., etc. Et ça, j'ai le temps de le faire en D1. D2, j'ai plus le temps. Alors, à moins que ce soit, on me redonne la même table que le D1, ce qui n'arrive jamais, j'ai toujours un souci au D2 d'adaptation.
Et donc, tu l'as revécu là, alors?
Bah là je l'ai revécu. Bon, les joueurs qui étaient au D2, je les connaissais au moins de réputation, j'en avais joué certains.
Ouais.
Mais j'ai eu un tirage de table compliqué. Pour le field, je pense que ma table était assez compliquée et oui, effectivement, tu rentres tout de suite dans le vif du sujet avec des coups qui te permettent pas, enfin moi qui ne me permettent pas d'aller jouer le jeu que j'aime, c'est-à-dire jouer pas mal de flops, faire peur aux autres, etc. Et tu deviens très vite.
Le fameux jeu un peu fantasque qu'on te connaît. Il y avait 300, on connaît pas encore le résultat de cette, de la PO 2005. 394 joueurs au départ. Mm-hmm. Mundir, tu y étais, toi, toute la semaine. Bon, ouais. De toute façon, on l'avait anticipé. On avait eu à PO avec
succès.
Nous. On savait que ça allait être un gros succès.
Totalement.
Tous les tournois ont cartonné. Le 500.
Bien sûr, le 500,
575 joueurs.
Ce qui est monstrueux. Ouais.
Donc, quand tu organises des beaux tournois à Paris, il y a une véritable demande. Tu l'as constaté aussi, Guillaume.
Évidemment.
Gros succès, les joueurs sont là. Le 1000, ouais. 461 joueurs.
Ouais, et puis c'est les réentries, hein. Attention. Hein. Mmh. Et c'est juste. Enfin, c'est un vrai succès. Et je sais que. J'ai demandé à Pau certains chiffres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que. Le total net redistribué, d'accord, distribué, pardon, est de 1 700 000. C'est quand même monstrueux.
Sur la semaine.
Sur la semaine, ouais, bien sûr. Ce qui est monstrueux pour un événement qui, je pense, va voir le jour incessamment sous peu.
En tout cas, il y a déjà 800 000 sur le seul 2005.
Exactement. Donc
800 000 de prize pool pour un petit tournoi français, ça fait longtemps.
Alors qu'il n'y a pas de garantie à la base. Hein.
Ouais.
Donc c'est vraiment top. Hein. Enfin, bon, tout est magnifique. Quoi. La structure, enfin, je trouve... C'était un vrai...
Bonne ambiance.
Totalement, bonne ambiance.
Belle salle.
Qualité des croupiers est très bien. Ouais. Franchement, non, il n'y a rien à dire.
Alors, le 500 a été gagné par Nicolas Schull, qui a gagné 44 480 euros.
Qui est l'ancien animateur de chez Partouche, qui animait les vidéos, justement, après les tables finales, qu'on salue d'ailleurs, et qui est un mec super.
Le Apo 1000, victoire de Hugo Haricot.
Hugo Faggioli. Pourquoi tu dis ça?
Haricot, en italien, Faggioli, c'est Hugo Haricot.
Ah bon?
Ouais.
Putain, je savais pas. Ah, t'es bon. Écoute, ouais, très bon, très très gros joueur.
73 000, lui.
Très très gros joueur, normal. En plus, il était chip leader du D1, D2, et il a continué. Et puis, c'est vrai, c'est un très très gros joueur.
C'est ça, chip leader D1, et garder cette avance et aller au bout.
Ah, mais c'est un très très gros joueur, hein. Très très bon. Déjà, gagné aussi un Wina Poker Tour, donc rien à dire. Faut dire qu'après, quand le field se rétrécit, c'est qu'il y a des très très bons joueurs. C'est un peu comme Vegas, quoi.
Et le 2005, bah, on attend le vainqueur. Puisqu'on est dans les vainqueurs, on peut rapidement enchaîner avec un mot d'actu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer pour Yoviral.
Là, il enchaîne.
Septembre, quoi.
Il enchaîne. Ah ouais, il enchaîne. Sixième du warm-up. Partie poker
à combien il en est dans ce mois de septembre de gains là,
je pense qu'il a dépassé le million, 1 400 000 quoi. Ouais, 1 400 000,
j'allais
plus
dire,
cher.
1 500 000.
Plus le cash, quoi, parce qu'en cash là il joue en 200 400, c'est assez impressionnant, et puis il prend des gros pots, quoi.
Que c'est d'un coup là, c'est tout une explosion autour de lui, que le succès, c'est son moment. Tu sais, ouais, comme on dit, il est dans son apex.
Il est on fire, in the paint, comme on dit dans la peinture. Et c'est vrai qu'il est en plein de confiance. Il stream ses résultats, aussi la manière dont il les gagne. Franchement, c'est top. Bravo à lui. Il faut qu'il continue. En plus, je pense qu'il part bientôt à Vegas. Donc, c'est de bon augure.
Voilà, il part en confiance.
Ah, bah oui, avec une belle bankroll. Avec une petite bankroll bien plutôt arrogante.
Toi, Guillaume, c'est fini alors les voyages, le grand déplacement à Vegas, ce genre de choses-là. Comment tu envisages ça? Parce que maintenant, on l'a dit, tu as une vie professionnelle puisque tu bosses, je le disais, pour Voyageurs du Monde. Même le tournoi, là, 2005 et tout, ça devient. T'as gardé une bankroll? Comment tu t'organises pour participer à ce genre de tournoi et pour les payer aussi?
Alors, je joue effectivement, je continue à jouer puisque la passion, elle part pas, l'envie de jouer, elle part pas. Donc, je joue des tournois. Ceux qui me font plaisir.
Tu t'es fait un petit calendrier dans l'année?
Non, parce que pour l'instant, on n'a pas encore les calendriers.
Oui, là maintenant, ça va revenir.
Pas grand-chose, mais on verra. Après, bon, ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas joué un EPT, etc. Autant pour des questions de bankroll que pour des questions de niveau, hein, on va pas se mentir. Je ne pense pas aujourd'hui avoir le niveau pour jouer un EPT.
Parce que tu as moins le temps. Bon, tu n'es peut-être pas non plus le plus grand des bosseurs sur ton jeu.
Oui, mais tu bosses quand même. Mais tu es quand même obligé de bosser. Même si...
Mais là, tu vas encore moins pouvoir bosser. Là,
ouais. Et puis, je vais te dire, je n'ai plus envie. J'ai aussi arrêté de faire ça professionnellement parce que je n'avais plus envie de faire ce travail-là. Donc, c'est pas aujourd'hui où je joue pour le plaisir et où...
Est-ce que c'est une saturation un peu de ta part, un ras-le-bol complet, peut-être entre les bad beats, les mauvais, un peu comme tous les grands joueurs comme toi qui ont eu des downswing et...
C'est gentil. Mais
et qui, au bout d'un moment, ont dit « Ok, je passe à autre chose ». Ouais, bien sûr.
Ça en fait partie, bien sûr. C'est un ensemble de facteurs. Celui-là, de toute façon, le facteur psychologique, j'imagine que vous en avez... suffisamment
parler
pour totalement. Comprendre qu'il est fort.
Mais ce qui est beau, c'est que ce qui est beau dans ce genre d'histoire, c'est tu te souviens, on avait eu Benjamin qu'on a vu au téléphone, où son histoire est juste affolante et beau à entendre, mais parfois pas terrible. Mais c'est vrai que c'est comment dirais-je ça dans un français correct? Je dirais qu'il n'y a pas meilleur qu'un grand joueur qui a perdu et qui revient en disant ok, j'ai été un grand joueur. Je passe à autre chose et qu'aujourd'hui je n'ai plus envie. Enfin, comme tu le dis, c'est que je n'ai plus envie d'être pro. C'est beau. Enfin, je trouve que c'est beau.
J'ai eu la chance, comme tu l'as dit, Daniel, j'ai eu la chance d'abord de vouloir arrêter, de comprendre que ça allait pas être facile.
Mm-hmm. Et ça l'a pas été.
Ça l'a été.
Le changement de vie.
Ça l'a été. Ouais. Plus ou moins, plutôt plus, parce que en amont de ça, j'ai effectivement. Reçu une aide plus que précieuse de mon ami Jean-François Rial,
qui est le
PDG de Voyageurs du Monde, qui, un an avant que j'arrête, j'avais déjà ce désir de préparer cette
retraite. Ton après-poker,
quoi. Exactement, et je ne l'ai pas fait brutalement. La dernière année, j'ai commencé à travailler avec Voyageurs du Monde sur des trucs un peu light. J'ai monté notamment un réseau d'ambassadeurs un petit peu partout dans le monde et je faisais ça en même temps que mes tournois, tu vois, au fur et à mesure de mes déplacements. Et c'est à la fin de cette première année où j'ai arrêté le poker et je me suis consacré à ça et Jean-François m'a envoyé à Bruxelles où j'ai dirigé le marché belge pendant 3 ans, jusqu'à la crise Covid.
Et le tourisme, il y avait quelque chose qui t'attirait là-dedans, dans cette aventure que te proposait Jean-François?
Pas spécialement, c'est Jean-François qui m'attirait. C'est un homme exceptionnel.
Oui, c'est vrai.
Voilà, je pense qu'il ne peut susciter que des envies. Et quand il te donne une chance, déjà,
on a envie de vivre dans ses aventures.
Totalement. Il
fait, à part... au Parc Oel pour soutenir Lyon, on le suit partout.
Je suis d'accord, mais tu vois, étant un ami proche, il nous arrive de regarder des matchs ensemble, notamment de...
Grand supporter de l'OL.
Voilà, mais il est... c'est pas les sujets sur lesquels il est le plus de mauvaise foi.
Sur le foot, c'est pas du tout un supporter borné. Il est très clairvoyant.
Ouais.
Il est très clairvoyant. Ouais. Et alors, dans ce changement de vie, parle-nous deux secondes de ce que tu fais. Bon, beaucoup de gens qui nous écoutent, après tout, aiment les voyages et
je vais les recevoir.
C'est une super belle entreprise qui organise des très beaux trucs.
Voyageurs du Monde est une boîte exceptionnelle, tant humainement déjà que par son activité elle-même. Et c'est une agence de voyage sur mesure qui organise donc des voyages partout, pour tout le monde qui ont envie de.
C'est du haut de gamme, il faut le dire.
C'est sur mesure.
En service. Ouais, ce sont les services qui sont haut de gamme. Oui. C'est l'accompagnement qui est haut de gamme. Après, oui, on travaille avec une certaine catégorie d'hôtels, etc. Ce n'est pas du haut de gamme pour du haut de gamme. C'est pas du bling bling si c'est ça que tu vois.
C'est du sur mesure.
On comprend exactement qui sont les participants au voyage et on fait quelque chose spécialement pour eux. Voilà. Ça, c'est les voyageurs du monde. Bon, là où je vais un peu te décevoir, c'est que malheureusement. Depuis un an et demi, il t'a pas échappé que le tourisme subit une très grave crise.
On a un peu moins voyagé, oui, ça c'est sûr.
Que Voyageurs du Monde, l'a pris de plein fouet comme tout le monde, et que moi en Belgique, de plein fouet aussi, puisque on a rouvert l'agence de Bruxelles il y a seulement quelques semaines, et que entre temps, moi j'ai été transféré sur
toi, la
France.
Toi, tu vis à Paris maintenant?
Maintenant, je suis à Paris. Oui. Mais pour l'instant, l'activité n'est pas telle.
Ouais, ça repart, mais ce n'est pas encore reparti.
Donc,
au feu,
pour tout te dire, depuis quelques mois, je suis en train de préparer ma prochaine nouvelle vie.
On revient pour ta prochaine nouvelle vie, parce que là, on a déjà débordé sur la première partie. Restez avec nous, le RMC Poker Show continue évidemment tout de suite.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
La deuxième partie du RMC Poker Show, on est là en studio avec Mundir, avec notre invité ce soir, Guillaume Darcourt. Et dans un instant, on sera avec Steph Matteux, le coach du team Winamax en pleine préparation des championnats du monde.
Et oui.
On est à J-4.
Je te l'annonce
tout de suite. Tu le sais, Mundir, dans la prochaine émission, on sera évidemment avec le patron
des
WSOP, Greg Chauchon.
Back, il faudra
qu'on
boss.
Sache exactement tous les tournois qu'il y aura au programme.
Il y en a des pas mal.
Ça va être somptueux, ça va être pour tout le monde, enfin tous les gens qui pourront y aller. Mais là, ça va s'ouvrir. Et tous ceux qui redoutaient de ne pas pouvoir y aller vont pouvoir y aller, dont toi.
Et on
aura le nombre de bracelets exact et donc le nombre de possibilités pour toi de revenir avec un bracelet.
Ah oh, putain. Alors si j'en ramène un, tu me fais quoi?
Oh là, franchement là. Bah, tu fais une émission tout seul. Un one man show.
Non.
L'émission, tu la transformes en one man show.
Le succès.
Tu racontes les coups un par un. On passe toute la nuit dessus.
Un beau coup.
Tous les coups.
Allez, d'accord.
Tous les coups. Et tous tes coups sont commentés par un pro.
D'accord.
Et la coulisse commentée par Steph Matteux.
D'accord, ok.
Qui devient ton manager privé pendant une semaine. C'est moi qui le paye pour toi.
Et
Steph, il est là en plus. Et on va lui demander.
Sérieux, allez, c'est parti.
Salut Steph.
Salut coach.
Salut Daniel. Salut Mundir. Salut Guillaume.
Salut Steph.
Il y a longtemps, dis donc, on ne s'était pas parlé, Steph. Donc je rappelle que tu es le team manager du team Wina. Vous êtes en pleine préparation des WSOP dont on est en train de parler. Je disais à Mundir, je ne sais pas si tu as entendu, mais s'il revient avec un bracelet, je lui fais une montagne de cadeaux et il fait partie de ses cadeaux, sache-le.
C'est Toys R Us.
Ouais, super, avec plaisir. c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, surtout de gagner le bracelet. Je ne sais pas si le management par mois pendant une semaine, c'est peut-être que ça, mais gagner un bracelet, ça c'est sûr par contre.
Tu as fait escale quelque part avant d'arriver à Vegas. Toi aussi, t'es passé quoi, Mexique? Et là, je crois que t'es à Montréal en ce moment, c'est ça?
Ouais, exactement. Ben, j'ai pas encore fini. Je suis passé au Mexique pendant 9 jours. Et puis hier, je suis parti. On était à Playa del Carmen et donc j'ai fait Cancun, Montréal. Là, je suis à Montréal pendant 6 jours. Et j'arriverai à Vegas le 1er octobre.
Pourquoi
Playa del Carmen, qui point tourisme ne vaut franchement pas le détour?
Ah bon?
Playa del Carmen.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Non, Playa del Carmen ne vaut rien du tout.
C'est nul.
Et dans le coin, la ville qui vaut quelque chose, c'est le Tulum. Mais c'est quand même 2 heures de bagnole.
On n'a pas été à Tulum, mais on a été. Je suis complètement d'accord sur le truc de Playa del Carmen. Bon, c'est une ville où les jeunes vont faire la fête. Voilà, il y a du bruit, beaucoup, des bars, des boîtes de nuit. Bon, c'est pas plus excitant que ça. Par contre, on a fait une sortie qui était fabuleuse. On est allé avec Pierre et Aladdin voir le Chichen Itza, qui est un
les Chichen Itza,
qui est incroyable. Ça, c'était vraiment top. On a pris une voiture là, on a fait un trip de 24 heures. On a vu ça et une autre ville qui s'appelle Izamal, qui était vraiment magnifique aussi. Mais c'est vrai que Playa del Carmen, en France, c'est pas incroyable.
En fait, c'est une émission tourisme, pas poker, c'est ça?
Il y a cette fibre.
Tu es maintenant tu travailles pour Voyageurs du Monde, donc donc on.
Donc la première question que tu poses à Stéphane, c'est son séjour au Mexique.
Voilà, voilà, pour que tu valides en fait. Enfin, maintenant que tu bosses chez Voyageurs du Monde, c'est à toi de valider.
Oui, j'aurais dû appeler Guillaume avant de partir.
En bien fait, sûr, tu aurais dû. Mais sympa, je ne t'aurais pas.
Non, t'aurais pu m'appeler moi parce que je connais un peu le coin. J'y suis allé, donc j'aurais pu te filer 2-3 conseils. Steph, t'es avec nous maintenant, mais on va terminer. Et en plus, Guillaume, je crois qu'il aura une question à te poser tout à l'heure parce qu'on parlait de son problème entre le D1 et le D2. Et moi, ça m'intéresse de savoir si t'as déjà rencontré ça chez d'autres joueurs. Mais juste pour terminer, Guillaume, tu disais quoi? T'as encore un changement de vie en préparation?
Ah oui, oui.
Qu'est-ce que tu veux faire encore? Parce que là, tu viens de nous dire que tu démarres une aventure avec Voyageurs du Monde.
Ça fait 5 ans. Elle est largement démarrée, cette aventure. Et il y a eu un coup d'arrêt il y a 1 an et demi, je te rappelle, qui est pas de ma volonté. Donc, je m'interroge beaucoup.
Qu'est-ce que t'aimerais faire de bon maintenant?
Je pense qu'on va essayer de revenir un petit peu dans le poker. Mais,
parce que
là où tu m'attends.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le reportage de Loïc Sens qu'on a reçu, d'accord, qui est après la nuit, donc d'accord, les joueurs de poker, comment ont vécu les joueurs de poker justement pendant cette pandémie, Guillaume Darcourt parle face caméra en disant qu'effectivement, avant la pandémie, tu étais en contact avec des casinos qui t'avaient approché justement pour pouvoir développer du poker.
Tu veux organiser des parties?
On va organiser, organiser des parties, des tournois, gérer, diriger, je sais pas, voilà. C'est...
Dans un casino ou façon à peau?
Écoute, tout est, il y a beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup de contacts, même de propositions.
Donc ça va, c'est génial.
Ça va, c'est dynamique et j'espère que...
On pourrait voir la room d'Harcourt?
J'ai plus besoin de ça.
D'accord.
Ça a été fait. Je suis content que ça a été fait. Ouais. Que je crois que je suis encore le seul Français à avoir eu ça. C'est bien. On va pas le refaire. Comme les cheveux roses, je vais pas le refaire. C'est bon.
Ah, ça t'allait bien.
Je trouve.
J'aimais écouter.
Avant que tu quittes Voyageurs du Monde, alors file-nous 2-3 voyages à faire, quoi.
Oui.
Ouais. 2-3 destinations. Dis-nous où est-ce qu'il faut aller. Là, c'est quoi les destinations du moment?
Pas du côté d'Aubervilliers, ce qui est un peu trop de craquant.
Non, mais à considérer qu'on puisse bouger.
Qu'on puisse bouger.
Ouais.
Je sais pas, Montréal peut-être, non?
Tu as connu Montréal.
T'as des choses évidemment sublimes, notamment Bali, des sensibilités, non, sans aller sur des trucs bling-bling, toi tout de suite, tu veux des trucs bling-bling.
Thaïlande, c'est pas bling-bling.
Mais le sud-est asiatique, c'est sublime, il y a des voyages magnifiques à faire, tu as le Bhoutan, tu as Zanzibar,
Bhoutan, j'avoue que là, c'est plutôt, j'ai pas beaucoup entendu, je sais que Jean-François Arial, à chaque fois que je lui demande, il me sort de cette destination de malade dont j'ai jamais entendu parler, mais le Bhoutan, là, c'est, j'entends beaucoup parler du Rwanda.
Rwanda, sublime, ah ouais. Sublime, bien sûr. L'Iran?
Ah ouais? Non,
L'Iran. Empire Perse, c'est exceptionnel. Non,
il paraît que c'est très beau. Mais
voilà.
Je connais le Boucan aussi. Je voulais faire une Danielle, mais bon, je pense pas que ça soit passé.
Non, mais tu sais qu'on a beaucoup de choses à faire en Europe déjà. Hein.
Ah bah ouais.
L'Italie, c'est sublime.
Oui, mais là,
pour toi, je pensais que tu parlais pour les auditeurs.
Pour tout le monde, effectivement, t'as raison de dire qu'en Europe, oui, ça c'est sûr que l'Italie.
Il y a des choses magnifiques hors des sentiers battus, du tourisme de masse.
On n'est pas loin du plus beau pays du monde, oui, je sais. Ouais. Mais je ne suis pas objectif. Steph, alors, entrons dans le vif du sujet. Tiens d'ailleurs, parce que je devais te poser la question, t'as déjà eu des joueurs qui ont souffert comme Guillaume du passage du D1 au D2? Comme cas pratique, tu
es. Ils ont souffert de ce passage.
Guillaume disait qu'il avait une sorte de phobie, je ne sais pas si on peut dire ça comme
non,
ça.
Non, c'est pas une phobie, c'est... Si je suis pas à l'aise, mon jeu ne se prête pas à ça.
Quand il passait à la fin du D1, les jetons dans le sachet, je suis super bien, plutôt que d'être super content, il arrivait au D2 et ça, c'était plus une angoisse qu'autre chose. Une crainte que ça se passe pas pareil.
Non, j'avoue, j'ai pas. Alors après, ça peut s'expliquer. Je pense que c'est plus une question de croyance qu'autre chose, parce qu'en réalité le D1, D2, D3 c'est un découpage finalement complètement arbitraire du tournoi, c'est qu'on arrête à certains stades ou pas, qui change, ça peut être le niveau de blinde, etc., et la perception du joueur, donc ça peut être peut-être un travail à faire sur les croyances, mais je pense que objectivement le seul truc factuel qui se passe, c'est qu'on met les jetons dans un sac pour les ressortir le lendemain matin, mais en fait en termes de jeu
le tournoi il continue, voilà, que ce soit au cours d'un même jour ou d'un jour sur l'autre. Donc non, j'ai pas trop eu ça avec mes joueurs. Après oui, certains se sentent plus ou moins à l'aise, effectivement, le fait de passer la nuit peut-être, de réattaquer le lendemain, peut-être avec des sensations différentes de ce qu'ils avaient eu pendant toute la journée de la veille. Ouais, ça peut arriver un peu, mais j'ai pas eu ça très très souvent quand même.
Steph, on a un petit problème pour t'entendre, je sais pas, soit tu t'éloignes et tu reviens du téléphone, ou t'as un casque, ou je sais pas, mais on n'arrive pas à t'entendre de façon.
J'ai un casque, alors attends, je vais enlever le casque.
Ah là, ce sera mieux. Bon, tu vois, Guillaume, là, t'as traîné ce problème pendant des années, tu passes un coup de fil à Steph, en deux phrases, il te réglait le truc.
Direct.
Ah, quoi, merde alors.
il a mis le doigt déjà sur un des problèmes, qui est les sensations que tu as d'un jour sur l'autre à une table nouvelle.
Oui.
Donc ça, c'est un souci. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, moi, c'est aussi le fait d'avoir du temps pour observer ma table et à un niveau de blinde qui soit pas trop élevé, ou en tout cas, moi, avec un stack assez confortable pour prendre ce temps tout en jouant des coups. Voilà, c'est ouais, surtout voilà. Ça. Mais Stéphane, il va me répondre. Stéphane, il va me dire tout de suite, Guillaume, tu dois être plus patient. Et puis c'est tout. T'attends, tu passes un niveau sans jouer et tu regardes les autres joueurs et t'auras tes infos.
Est-ce que vous m'entendez là ou pas?
Ouais, je m'entends très bien.
Ah, vas-y.
Non, ouais, je dirais, par rapport à Guillaume, pour le coup, pour le connaître un petit peu, enfin, en tout cas, de l'avoir un petit peu côtoyé quand il jouait, c'est vrai que Guillaume, il est souvent très à l'aise quand, sur les débuts de tournoi, il a tendance à monter beaucoup, beaucoup de jetons. Et après, forcément, plus on se rapproche de la zone, un peu plus standard, quand le tournoi avance, qu'on se retrouve plus dans les zones de 30, entre 30 et 50 blindes. Et là, il est moins à l'aise parce qu'il peut moins développer son jeu et sa créativité. Donc, il y a cet ajustement, effectivement, et qui souvent se fait entre le D1 et le D2. Donc, ça, pour le coup, ça fait du sens qu'il y ait peut-être cette sensation un peu inconfortable dans cette transition. Après, comme tu viens de le dire toi-même, Guillaume, en fait, le jeu, c'est simplement de se réadapter à chaque fois. Je veux dire, des fois, pendant la journée, il y a la table qui casse, et puis on se retrouve à une nouvelle table. Et ce dont tu parles, le fait d'observer les adversaires, et puis de prendre la température, tout ça, c'est exactement le même boulot qu'il faut faire quand tu arrives au D2, voilà, ou au D3, quand on passe d'un jour à l'autre. Donc, finalement, la routine ou la transition est la même. C'est juste que là, ouais, il se passe une nuit entre les deux. Des fois, on a le temps de cogiter, ce qui n'est pas toujours bon, en fait, entre un jeu d'un jour à l'autre, quoi. Mais voilà.
Bah, tu vois, Steph, moi, j'ai un peu le même problème au tennis dans mes tournois. J'ai beaucoup de mal avec le premier tour et c'est beaucoup mieux le deuxième tour. Mais... pas comprendre.
T'as combien de blindes au tennis?
Il y a un travail clairement sur les croyances et les sensations aussi. Mais alors tout ça, ça va pas se régler en 5 ou 10 minutes. Mais il y a c'est un mix de qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on attache comme croyance à ça. Et souvent, on se rend compte que ces croyances, elles sont pas forcément fondées, quoi, par rapport à vraiment à ce qui se passe objectivement dans le tournoi, que ce soit d'ailleurs au tennis ou au poker. Hein, voilà. Donc tout dépend finalement de. Enfin, c'est très personnel. Tout ça, ça dépend de chaque joueur et un petit peu de sa perception du déroulement de tout ça.
Bon, Steph, comment va le team? Comment vont tes joueurs? Dans quel état d'esprit on est à 4 jours des WSOP, des sensations qui vont être de se rasseoir à une table pour un événement aussi important pour tous tes mecs, pour toi aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes là?
Bah écoute, tout le monde est chaud bouillant, hein. Il n'y a pas trop d'autres mots que ça. Ça fait un an et demi qu'il n'y a rien eu. Ils sont remontés à bloc tous. Ils ont ultra envie de jouer. Je pense que du coup, moi aussi, pareil, je suis très j'ai hâte d'être de retour, voilà, dans ce milieu-là, de reprendre un peu mes fonctions. C'est vrai que ça manquait de voyager, de se retrouver dans cette ambiance-là. Donc là, moi à Playa del Carmen, ils étaient 5. Il y avait Adrian qu'on n'a pas beaucoup vu parce qu'il était en vacances avec sa copine, Mousta, Canit, Romain Lewis, Aladin et Pierre. Et c'est clair que ceux que j'ai vus, on peut voir tout de suite que voilà, ils sont surmotivés. Ils ont qu'une envie, c'est d'arriver à table. Ils ont presque. Ça va être, je pense, une des problématiques ou en tout cas une des choses sur lesquelles
éviter la précipitation, c'est ce que j'allais te demander.
D'avoir trop faim parce que là, ils ont tellement envie de jouer que on sent que ils vont être chauds d'action. Donc à plus forte raison à Vegas où c'est vraiment plus un marathon qu'un sprint, il va falloir, je pense qu'une des clés, ça va être la gestion justement de cette énergie dans le temps, parce que voilà, non seulement ils n'ont pas joué depuis un an et demi, mais là ils se retrouvent, il y a pour le festival qui dure le plus longtemps de toute l'année, ça va durer 7 semaines, ça va être long, ça va être difficile, fatigant, et du coup ça va être vraiment la question de gérer cette énergie pour rester performant et optimiser justement tout ça sur la durée, quoi, et pas juste juste sur les premiers tournois.
Qui tu sens le plus déterminé parmi, parmi tous les joueurs pro de chez Wina, malgré qu'il le soit? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus une motivation supplémentaire?
Bon, écoute, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous dans la même démarche. Là, ils sont morts de faim, quoi. Je peux pas te décrire le truc autrement. Ils en parlent tous. Ils ont qu'une hâte, là. Tu vois, ils comptent les jours, hein. Tout littéralement, ils sont tous à se dire, ouais. Il y a Joao, lui, il est parti à Toronto. Et puis l'autre jour, là, on parlait dans le chat, je sais plus de quoi. Et puis il disait, bon, il reste plus que 7 jours et 8 heures avant que j'arrive à Vegas. Mais bon, c'est pas comme si j'étais en train de compter. Donc ils sont bouillantissimes tous. Je pense qu'ils sont tous ultra motivés, ce qui est plutôt une très très bonne chose.
Où on en est de la préparation? Quel est le... Il y a une sorte de plan de bataille, on va dire ça comme ça, de prépa, de réflexion, de dialogue, d'objectif même?
Ouais, alors ben les objectifs, bon, aujourd'hui ils sont tous à un niveau quand même où ils ont tous une notion très claire, hein, de ce qu'ils essayent d'accomplir. Donc ça c'est pas le souci. Je pense que moi sur quoi j'ai mis un petit peu l'accent, c'est un petit peu les axes à garder à l'esprit. Donc c'est celui que je viens de dire, hein. Le premier c'est vraiment la gestion de l'énergie dans le temps. Le deuxième ça va être aussi l'adaptation ou la réadaptation, parce que c'est vrai qu'ils ont pas joué en live depuis maintenant depuis 18 mois. Ils ont repris des habitudes qui sont vraiment des habitudes de online, hein. Tout le monde a grindé énormément sur internet, ouais. Mais personne n'a été physiquement assis à une table depuis un an et demi, donc ça va quand même avoir un impact. Et puis le troisième truc aussi, c'est que maintenant on joue dans un contexte différent avec la Covid. Alors bon, à Vegas ils vont pas devoir porter les masques, mais tous les gens autour portent le masque. Il y a quand même des restrictions sanitaires qui vont forcément avoir un impact. Donc ça va vraiment être une question de se réadapter, de prendre le temps, de prendre la mesure de ce qui se passe, parce que le contexte a quand même changé, l'environnement a changé, et il y a quand même besoin de se réadapter au jeu en live avec ces nouvelles conditions. Donc voilà, c'est un mix de gestion d'énergie et puis de capacité d'adaptation pour être de nouveau performant. Mais
il doit y avoir un élément qui est tout simple et qui doit déjà être chouette à constater, et ça te concerne toi également, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de bonheur, non, finalement, à se retrouver, à repartir dans l'aventure.
Nous, c'est sûr, on est hyper heureux. Après, il y a eu une grosse frustration qu'on a tous eue, c'est que j'ai essayé, moi, désespérément d'organiser le séminaire là, qui maintenant n'a pas eu lieu depuis 2 ans. Ouais. Et j'espérais vraiment pouvoir le faire là avant de partir à Vegas. Tu vois, l'idée, c'était de le faire entre le 20 et 30 septembre. Mais le problème, c'est qu'avec cette règle là où il faut partir de Schengen pendant 14 jours avant d'entrer aux États-Unis, j'ai pas pu malheureusement l'organiser. Donc là, c'était déjà top d'en voir quelques-uns au Mexique. Et puis voilà, alors tout le team va pas être présent dès le début à Vegas. Bon, ça, de toute façon, même dans une année normale, j'allais dire, c'est toujours un petit peu comme ça. Là, il y en a quelques-uns qui vont arriver que pour le mois de novembre, une fois que les frontières auront réouvert, dont Moonjack, par exemple. Mais j'en ai 2 ou 3 autres du team qui sont dans ce cas-là. Mais voilà, j'aurai une grosse partie de l'équipe, je pense, d'ici la mi-octobre. Et c'est vrai que ça va être un énorme plaisir de se revoir. On est tous hyper impatients de se retrouver, d'aller au resto, de passer du temps, de partager ces moments-là, et puis de vibrer autour des tables, quoi.
Toi, t'es pressé perso d'être en suractivité, parce qu'on sait que pendant ces 7 semaines, t'es un personnage central. Il faut que t'aides tout le monde, il faut que tu sois à l'écoute de tout le monde, que tu règles des soucis aussi bien d'ordre psychologique que matériel. Toi aussi, t'es dans cette attente et envie d'être le surmenage, parce qu'à un moment, parfois, tu dois être surmené, même tellement t'as.
Ouais, il a du recul, hein, Steph.
Ouais, je sais bien, mais il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de taf quand même, quoi.
Ouais, disons oui. Alors, mais bien sûr, moi j'adore ça. Hein, bah oui, je suis un peu, j'ai ce côté-là un peu hyperactif. J'adore ça quand il y a plein de trucs à gérer en même temps. C'est ça ma cam aussi, hein, dans le boulot. Après, c'est vrai aussi que je le fais maintenant depuis longtemps. Donc, j'ai réussi à systématiser, automatiser pas mal des processus avec pour objectif de rendre la vie la plus facile possible aux joueurs, justement. Tu vois. Mais oui, pour répondre à ta question, moi j'adore ça. J'adore être dans l'action, avoir les mecs à conduire à droite à gauche, m'occuper des dinner breaks, aller gérer un mec qui est loin dans un tournoi, régler des problèmes, mon métier, quoi. Je suis heureux de pouvoir bientôt, dans une semaine, recommencer à faire ça, ouais, c'est clair, parce que bon, depuis un an et demi, c'était mon taf était très administratif, et beaucoup plus en recul, et ça manquait vraiment de contact humain, quoi.
Est-ce qu'il y aura, Steph, coach, est-ce qu'il y aura la chambre fétiche au Rio pour les joueurs?
Ouais, absolument, absolument. J'ai envoyé l'email pour le réserver la semaine dernière. Donc, on aura, comme on l'avait fait en 2019, cette chambre qui sera un peu le point de ralliement et qui est un petit peu le point contact pour les joueurs qui sont justement loin dans les tournois quand ils ont besoin de se reposer pendant 20 minutes, une heure ou faire un dinner break ou s'ils n'ont pas envie de sortir du Rio. Ouais, il y aura cette chambre à disposition. Ouais.
Ça, ça a été un petit peu la nouveauté. Hein. On l'avait vu notamment dans la tête d'un pro.
Ouais,
c'est en gros la chambre, point de ralliement pour tous.
Je trouve ça top.
Et effectivement, c'était une très bonne idée.
C'était un truc dont on avait parlé en fait depuis plusieurs années. On avait envisagé l'idée. Et c'est vrai qu'avec le recul, on aurait clairement dû le faire beaucoup plus tôt. Et on l'a fait la première fois donc en 2019. Et c'est vrai que la valeur marginale de ça est en fait énorme parce que même si c'est pour chaque joueur, ça arrive qu'une fois ou deux. Sur la durée du festival, mais quand les mecs ont effectivement besoin, quand ils ont un break à un moment de 45 minutes, et au lieu de sortir et d'être dans le speed à l'arrache pour aller quelque part ou rentrer chez eux et revenir, là, ils savent que, ils sont à 5 minutes, il faut qu'ils traversent juste le couloir et ils peuvent se poser, s'allonger éventuellement. Moi, je peux ramener un truc à manger. Ils sont dans un truc paisible, calme, se ressourcer. En fait, ça peut faire une grosse, grosse différence au moment important du tournoi.
Bien sûr, c'est du confort pour des joueurs. De toute façon, vous êtes à un stade de professionnalisme hyper poussé et tous les détails. Et toi, de toute façon, je sais que dans la tête, tu es un sportif de haut niveau et tous les détails sont gérés par toi, notamment. Comment ça va se passer au niveau des logements cette année? On a connu l'époque à plein de mecs dans une maison louée. On a connu chacun un peu dans son coin. On en est où maintenant?
Ouais. C'est un petit peu ça. Maintenant, c'est des maisons, mais c'est pas tous ensemble. C'est un petit peu éclaté. Alors, il y en a quelques-uns qui sont ensemble. Il y en a qui sont avec leur communauté, entre guillemets. Moi, pour le coup, je vais héberger Moussa et Kouchen aussi. Donc, il y a un petit peu de tout. Moi, j'ai loué un appart. Il y en a qui ont loué des villas. Il y en a qui sont Adrien, par exemple, il est avec quelques potes à lui, Grindr espagnol. Moussa, il va être avec moi, mais il sera peut-être aussi avec ses potes italiens. On a quelques joueurs qui sont ensemble. C'est assez variable, en fait. Mais par contre, il y a un truc qui n'existe quasiment plus, c'est ceux qui restent à l'hôtel. En fait, c'est marrant comment ça a shifté, ça, par rapport à il y a peut-être 10 ans où là, tout le monde passait l'intégralité du séjour dans des hôtels. Maintenant, il y a quasiment plus personne qui est à l'hôtel. On essaye de recréer le mieux possible une routine classique de vie, entre guillemets, avec un appart, des habitudes, des choses finalement simples, mais dans lesquelles on se sent plus à l'aise que dans un hôtel avec du bruit et les machines à sous, quoi.
Guillaume, je t'entendais pendant que Steph parlait un petit peu de toute cette explication, de ce que j'appelle le professionnalisme poussé à l'extrême, là. Quel regard tu portes sur tout ça? Parce que toi, t'as pas connu ça, l'équipe hyper bien organisée,
Moi, j'ai connu quelque chose qui n'a jamais été autant poussé
loin,
que Winamax. J'ai eu la chance d'avoir des sponsors où les choses étaient quand même bien faites. On partait pas de rien non plus, tu vois. Mais évidemment, il y a rien qui est comparable avec et Wina et Stéphane.
Donc, t'aurais aimé vivre une aventure comme ça, d'être encadré de cette façon, d'avoir un coach
qui va te dire non? Quel joueur sérieux va te dire non?
Moi je suis sûr qu'on peut croiser des joueurs
qui ont dit non, nous on veut pas,
qui se gèrent tout seul, ou mieux qui ont carrément un coach mais pour eux tout seul et qui organisent tout comme ça et qui veulent pas de la vie en communauté.
C'est ce que j'allais te dire. Le truc, c'est que moi j'ai eu la chance d'être sponsorisé pendant 12 ans. Donc j'ai cet esprit de team. J'ai connu, comme le disait Stéphane, des années à l'hôtel tout seul. Alors on n'était jamais complètement tout seul, on était plus ou moins dans le même hôtel, on se retrouvait tous les soirs pour ceux qui ne jouaient pas, etc. Tu vois, il y avait cet esprit-là, mais t'es un mois et demi tout seul dans une chambre d'hôtel quand même. Ouais. Aussi confortable soit-elle, et Stéphane a raison, c'est fini ça, et je comprends très très bien. Donc si on avait eu un Stéphane pour organiser ces choses-là et les faire de façon aussi méticuleuse, évidemment que c'est un confort extrême et qui peut que pousser les joueurs à se surpasser et les mettre dans les meilleures conditions, évidemment.
Steph,
Yes.
On te souhaite évidemment. Allez, si, quand même, avant de te quitter, je veux savoir, au fond de toi, qu'est-ce que tu estimerais être un Vegas réussi pour ton team? Ça va être quoi? Ça va être le nombre de bracelets, le nombre d'ITM. Je ne sais pas si à ton niveau, on fait des rêves de réussite, mais fin novembre, t'aimerais quoi en fait?
Moi, c'est clair qu'aujourd'hui, la chance que j'ai eue, d'évoluer avec cette équipe là depuis 11 ans maintenant. Mes joueurs, ils ont gagné tellement de trucs que j'ai vécu des moments incroyables. Donc c'est clair que aujourd'hui, et sans aucune prétention, faire des ITM, c'est super. Mais ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est les titres. J'ai eu la chance de côtoyer des joueurs qui ont gagné des titres dans tous les festivals du monde. Donc, bien sûr que ce dont on rêve, c'est des bracelets avant tout. On peut rêver encore au bracelet du main event, hein, j'ai envie de dire.
C'est
clair que c'est un rêve. Moi, aujourd'hui, c'est un privilège incroyable pour moi, mais je réfléchissais à ça il y a quelques semaines et je me disais, moi, j'ai accompagné des mecs qui ont tout gagné finalement, qui ont gagné WPT, des EPT, des bracelets au World Series, qui ont gagné sur tous les circuits. J'ai des mecs qui ont été numéro un mondiaux. J'ai Duao qui est le plus gros gagnant online. J'ai une équipe, c'est une armada incroyable. Et si je fais le bilan de tout ça, le seul truc encore que j'ai pas pu vivre, c'est gagner le main event. Tu vois, on s'en est rapproché avec Sylvain en 2013, où il a fini quatrième. Ça serait l'accomplissement ultime. Après, je reste conscient que c'est un accomplissement ultra dur à décrocher. En plus, cette année, je pense que ça va être de la folie complète. Là, en plus, vu qu'ils ont réouvert les frontières, si ça se trouve, je sais pas, j'en parlais un peu avec 2-3 grinders qui disaient que ça va peut-être être la plus grosse influence de l'histoire du main event. Donc à voir, mais ouais, effectivement, le main event, ça sera incroyable. Mais bon, déjà, tu vois, tu me dis un bracelet, je signe déjà au bas de la page.
Bon, Stéphane, moi, je t'en souhaite plus qu'un. Évidemment, je te souhaite beaucoup de succès. Ce que je te propose, si évidemment tu peux, durant ce mois et demi où tu seras là-bas, si régulièrement, le dimanche, dans le RMC Poker Show, tu peux nous faire un point étape, comment tu vas toi, comment vont les joueurs, sur avec l'ambiance. Plaisir. Franchement, nous, ce sera avec plaisir. On adore parler avec toi. Et puis, voilà. Vraiment, on te souhaite le meilleur. Voilà.
Merci beaucoup, et ce sera avec plaisir pour vous faire des petits récaps au fur et à mesure. Vous me faites signe quand vous voulez. Je serai à votre disposition.
Merci beaucoup, coach. À très bientôt.
Salut, Steph.
Allez,
bon
début
d'aventure.
Ciao, la bise à tous.
Allez, fin de cette deuxième partie. On revient tout de suite pour la fin. Très et sympa. Dans la tête d'un fiche, on va jouer. Ouais. Tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
La troisième partie du RMC Poker Show, les amis. On est là avec Mundir en studio, avec notre invité du jour, Guillaume Darcourt.
Eh oui.
Et Jérémy nous a rejoint pendant la fête d'infini.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, producteur.
Bonsoir.
En avant, petit jingle.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
On va jouer tous les trois sous le regard averti
et bienveillant
d'un de nos amis, évidemment, un de nos meilleurs amis dans le RMC Poker Show, qui lui est déjà à Vegas.
Déjà.
Julien, comment ça va, Julien Martini?
Et salut tout le monde, salut, comment allez-vous? Moi ça va très très bien.
Alors Julien, tu es prêt toi? Comment t'es là? On est à J-4, c'est quoi ton premier tournoi? Ça va être lequel d'ailleurs?
25.
Alors donc oui, très près, mon premier tournoi ça sera mercredi avec le 25 000 $ horse. Boom. Donc 5 jeux, Hold'em, Oma, Raz, Stud et Stud ILO.
Alors c'est-à-dire que Daniel lui va s'arrêter au Hold'em, hein, je te le dis tout de suite.
Alors attends, ouais. en plus c'est du Hold'em limite, hein, donc
je pense que
tu n'avais pas raison de le préciser, je pense que tout le monde s'en doutait.
Non, parce que quand il a dit Raz, toi t'allais dire mais t'as rasé qui?
Non, je connais quand même, à défaut de savoir les jouer, je connais quand même les intitulés des tournois et ce qu'on y fait. Donc je te demandais, tu es prêt Julien, t'as effectué une préparation particulière, tu es arrivé depuis quand là-bas, comment ça se passe?
Alors donc je suis arrivé avant-hier, vendredi, donc préparation assez particulière puisque vous le savez, on a dû passer 15 jours en dehors de l'Europe, donc pour ma part c'était à Mexico et Mexico City.
Ah tiens.
Prêt techniquement.
À Mexico, DF comme on dit là-bas.
Pourquoi? Exactement, exactement. Drôle de vie, hein, vraiment.
Distrito Federal. On dit Mexico DF.
Ah oui, c'est tout. Ouais, quel maître Capello.
Et comment ça se fait, Mexico? Parce que pour la préparation physique, à l'altitude, on respire super mal là-bas. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas? et pas à la mer, je veux dire.
Alors bon, les choix c'était Playa del Carmen, Cancun ou alors Mexico City. Je me suis dit que j'étais un petit peu en retard au niveau de la préparation parce qu'il y a quand même pas mal de jeux à retravailler pour les World Series. Mmh. Et du coup, j'ai vraiment préféré me concentrer sur ça et rien d'autre. Donc pas de tentation externe.
Ah d'accord. Et t'as pas pu jouer à Mexico ? Ça joue au poker dans la capitale ?
Bah là, je vais passer 2 mois à jouer pendant les World Series, donc tu vois, j'en ai vraiment profité pour plutôt étudier, être bien sûr de mon bagage technique et mettre toutes les chances de mon côté pour les World Series.
Très bien, allez, on y va, on joue, Jérémy.
Allez, c'est parti, ce soir on est à...
J'avais pas vu l'horloge, je vois bien qu'on est en retard.
Allez, il nous reste 6 minutes, on a 6 minutes, il va falloir pas le bâcler, mais faire ça vite. Hein. On est en table finale du WPT Poker Classic à Los Angeles.
Ah, pas mal.
On n'est plus que 4 joueurs à table, assurés de 300 000 dollars de gains, ce qui est tout à fait correct pour une vie normale. On est le chip leader avec 6 millions de jetons, au blind 40 000, 80 000, plus de 70 blindes. On est de grosses blindes et on fait face à une relance à 175 000 du bouton. La petite blinde se couche et nous on ouvre As-Valet.
Nous on est quoi, grosse blinde alors?
On est de grosse blinde, on ouvre As-Valet suite à une relance du bouton à 175 000. On ouvre As-Valet, As de pique, Valet de carreau. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel,
qui a écrit
sa petite fiche? C'est juste payé.
C'est suité?
Non. D'accord. As de pique, Valet de carreau.
Colle chez moi.
Guillaume Darcourt, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait le fou?
Bah non, il fait pas le fou. Non.
Ah, il colle juste. Il a changé.
Arrêtez, c'est cette manie de dire que Guillaume va faire le fou, forcément.
Ouais.
C'est payé. Quoi.
Ouais,
comme moi.
Julien?
Alors, il y a pas mal de choses à prendre en compte dans ce coup-là. Je vais essayer d'être bref, parce que je sais qu'on est un petit peu en retard. Mais c'est notamment l'ICM, donc les gains par rapport aux différentes places. Si on est chip leader, on va pouvoir appliquer beaucoup de pression sur les autres joueurs, surtout s'il y a des stacks moyens à table. Et par exemple, nous sommes chip leader, 2 stacks moyens et 1 stack faible. A priori, avec As-Valet en big blind, je vais plutôt 3-bet de mon côté.
Ah, okay. Ouais. Bon, nous, on a décidé, comme les 3 personnes en studio, de juste payer cette mise. Le flop est venu. 3 de cœur, As de carreau, 10 de cœur, top pair chez nous. Et c'est à nous de parler du coup, messieurs, je vous écoute. Daniel, en premier,
bon,
tu check?
Je vais checker, là, vu que j'ai collé. Après, j'imagine que si j'avais fait comme Julien, là, je pense que d'un coup, j'aurais mis.
Ouais.
Moi, je colle. Je check, pardon.
Tu check?
Ouais.
Guillaume.
Eh bien, là,
il va donc
je peux tout faire.
Ah, ça me plaît,
là,
ça.
Je peux tout faire. Je peux check raise et je peux donc.
Bon, là, il faut choisir. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la meilleure option?
Généralement, tu check.
Tu prends l'initiative.
Basiquement, je vais te dire maintenant que j'ai collé préflop, je vais check. Mais là, on peut commencer à être un peu plus créatif.
Ok. D'accord. Julien?
Yes, on va laisser l'initiative à l'agresseur. On va souvent checker ici, même quasiment tout le temps checker sur As-10 X. Est-ce qu'il y a la troisième carte? J'ai pas entendu.
Un 3.
Ouais. 3 de cœur, As-2 carreau.
Okay, As-10 3 bicolore. Ouais. On va vraiment laisser l'agresseur miser, quelle que soit notre main.
Bon, on a décidé de checker effectivement. Et lui également checker. Le turn 10 de trèfle. C'est encore à nous de parler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Est-ce qu'on est devant?
L'autre a checké quand on l'a checké.
Il a checké, hein.
Je mets un escargot de Bourgogne.
Oui, là, je pense que je vais prendre.
Là, ça commence à miser.
Oui, là, je vais commencer à mettre quelque chose.
Quand même. On mise combien?
On a été à quoi, le pot?
Le pot fait 430 000.
Je mets 190.
190 000 chez Moundir.
Avec les moustaches, d'ailleurs.
210.
Et toi, Guillaume, dans un pot de 430?
Je check.
Tu check?
Ouais. Je check. Je peux pas imaginer que si. Alors, tout le monde a checké 2 fois. Je peux pas imaginer que sur un deuxième check. Le gars au bouton, il sorte pas.
Okay.
C'est pas possible.
Julien.
Alors la doublette du 10 est intéressante puisque c'est une main que notre adversaire peut très bien avoir. Il peut très bien check back au flop un 10, surtout sur une texture du type As 10 3 où les gens ont plutôt tendance à beaucoup trop miser par rapport à ce qu'il faudrait en théorie. Maintenant, As Valet c'est vraiment le top de notre range. Je pense que As Dame on aurait systématiquement 3 bêtes et on a des bluffs naturels tels que des tirages couleurs, donc des mains comme je sais pas 7 et 9 de cœur, 7 et 8 de cœur, etc. Donc moi je vais miser ici et je vais utiliser un sizing assez élevé puisque je vais plutôt peu le faire, donc je vais utiliser un sizing de 2/3 pot.
Voilà.
Ok, donc c'est ce qu'on a fait, on a mis 300 000 dans 430 000, 2/3 pot. Et notre opposant a payé assez rapidement, le pot il fait quasiment 1 million, la river roi de trèfle. quelques quintes sont rentrées avec Dame Valet, par exemple. Je vous écoute.
Un éventuel roi 10 aussi chez l'autre.
Ouais, exactement. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel?
Pas mal de mains avec des 10. Donc il était au bouton. Bon, en même temps, écoute, là.
Je pense
qu'une fois qu'on a été payé, ça aurait pas de sens, là.
Non, je peux pas value, là, ce que c'est.
De ralentir et de checker, là.
On va me taper
sur les doigts si je fais ça, là.
De faire le lâche.
Je sais pas. J'attends que Julien me dise pas là.
Déjà, qu'est-ce qu'il fait, Guillaume, qu'est-ce que tu fais là?
Moi, je fais tout à l'envers. Mais non, mais si je prends tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, je mise aussi River, c'est tout.
Tu mises River?
Ah oui, j'ai peur de Valet.
Mondia?
Je pense que si je mise et qu'il me check raise, à ce moment-là, je serai obligé de folder. Je préfère check call, moi.
Ok, Julien, qu'est-ce que t'aurais fait, toi, dans ce pot d'un million River, avec un roi?
Ouais, je vais checker également, donc toujours... Alors, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que maintenant, vu que le roi rentre, notre kicker rentre plus. Donc, on est As-5, ou même As-3, d'ailleurs, donc qui faisait deux paires au flop et qui, du coup, fait plus qu'une paire... Enfin, deux paires As-10 au turn. En fait, le valet ne rentre plus en kicker, puisque maintenant, c'est deux paires de As-10-10, kicker-roi. Mm-hmm. Et en revanche, on a un parfait bluff catcher sur les bluffs adverses, puisque avec un valet, on bloque Dame Valet, qui est une main qui est probable chez notre adversaire. Pour ma part, je vais checker et je vais fermer les yeux et check call face à n'importe quelle mise.
Bon, nous, on n'a pas checké, on a décidé de miser un cinquième du pot. On a fait 225 000 dans 1 million. Et là, notre adversaire annonce 825 000.
Bah voilà.
Ouais, mais alors là, nous, on est un peu sorti.
Tu l'avais déjà prévu.
On est un peu sorti du déroulé parce qu'on n'aurait pas fait ça et donc on aurait fait face à une mise probablement moins importante et on aurait collé puisqu'on a tous dit qu'on aurait fait check call. Oui. Et là, en l'occurrence, maintenant, par rapport à ce que le gars a fait, là, je sais plus trop, moi. Là, je sais plus trop parce que j'aurais pas fait ça.
Mais j'ai besoin d'une décision. Est-ce que tu payes, est-ce que tu foldes?
Je fold.
C'est fold.
Fold.
Chez Mundia.
Ouais, je crois que je call quand même.
C'est payé. Le boa.
Moi, c'est payé. C'est payé. Plan, c'est ce que je
Ok. Dis. Julien. Qu'est-ce que tu fais?
Ouais, rigolo. Difficile de définir la main adverse. Ça va vraiment dépendre du profil de l'adversaire. Si notre adversaire est capable de faire de temps en temps ça avec une main comme Roi-Dame ou Roi-Valet. Oui.
Est-ce que vous voulez l'adversaire?
Je pense que je vais coller.
Ouais, vas-y.
C'est Patrick
Bruel.
Alors, vas-y,
dis-nous.
Patrick Bruel.
C'est Patrick Bruel?
Il peut avoir Roi 10, Bruel.
Je colle.
C'est payé chez Mundia, ça change la décision chez Daniel ou pas?
Non, j'aurais collé.
Non, c'est payé, Ok. Et ben en face.
Moi, je vais folder contre Patrick.
Ouais, moi aussi.
Ça fold?
Ouais, moi aussi.
Bon, fold les amis parce qu'il avait As-10.
Bah oui.
Comme quoi, la personne en face change la décision.
Putain, paire de deux.
Merci beaucoup, Julien.
Merci, Julien.
Bon courage,
à bientôt, on se voit là-bas.
Et très bon Vegas, et on se tient au courant, bien sûr. On veut savoir tous tes résultats. À très bientôt.
Avec grand plaisir et toujours un plaisir de venir discuter avec vous.
Merci,
beaucoup.
Salut
Guillaume.
Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin du RMC Poker.
Déjà
mais on est à la bourre, Mundir, ce soir. Clairement.
J'ai mis une bougie.
Merci beaucoup, Guillaume Darcourt.
Merci, Guigui.
Rapide, mais c'était un plaisir.
Merci, mon pote.
Oui, c'est David. Toutes nos amitiés à Jean-François Rial, ton patron.
Exactement.
Bien sûr.
Joueur de poker aussi.
Il viendra nous parler de sa prochaine promo.
Bonne semaine à tous. La semaine prochaine, on parle principalement des championnats du monde et de Vegas.
Eh oui, pas
minuit, 1h, c'est le RMC Poker Show.